L'atelier des médias, Julien Lebotte.
On ne cesse de répéter le mot innovation comme une incantation magique. Comme si d'un coup de baguette magique, on pouvait tout changer, tout réinventer. Les médias, l'éducation, la politique, hop, dites innovation et c'est la révolution. À la limite, ajoutez à innovation les mots hackathon, lab et data, et là vous êtes sûr de passer pour un caïd de la donnée, un visionnaire de la Silicon Valley, ou allez, soyons fous, un digital gourou. Ici, à l'atelier, on préfère une formule à l'ancienne, comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, parce qu'elle remet les choses à leur place. Innover, ce n'est pas nécessairement introduire des ruptures sans retour. Innover, c'est aussi transformer l'existant, pas à pas, c'est presque un truc d'artisan, une démarche patiente et obstinée, un savoir-faire qui s'invente et se bonifie en se partageant, idéalement, à l'intérieur d'un groupe ou, pour le dire à la mode numérique, au sein d'une communauté. Il y a d'ailleurs un mot qui rend compte de cette idée, c'est écosystème.
Écosystème, non masculin.
Sur le Larousse, à l'entrée écosystème, on trouve deux idées formidables, l'osmose et le biotope. Alors quand on applique cette idée à l'information, à la connaissance ou aux médias, j'ai comme la sensation qu'il n'est pas inutile de creuser de ce côté-là. L'atelier des médias vous propose donc de rencontrer deux acteurs de la transformation des médias qui misent avant tout sur une formation en osmose avec le biotope numérique. Je veux parler de Julie Joly, directrice de l'école W qui ouvre ses portes à Paris, et Julien Costrèche, cofondateur de l'association West Media Lab, un cluster numérique basé à Nantes. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Dans quelques instants, nous irons découvrir avec Manon Mella le Media Lab Speed Training, une sorte de speed dating de la formation numérique. Mais tout de suite, on part au Maroc et on appelle Ali Amar, cofondateur du Desk.ma. Bonjour Ali.
Bonjour Julien.
Alors Ali, vous êtes le directeur de publication du Desk.ma, un site d'information indépendant en français qui a été lancé en 2015 au Maroc. Dites-nous Ali, quelle est la nouvelle du jour ou plutôt de la semaine ?
C'est une mauvaise nouvelle parce qu'on est à bout de souffle, comme on l'a décrit par le communiqué qui a un peu sonné nos lecteurs. Nous sommes à court de financement et évidemment l'avenir de ce beau projet est compromis. On a une vingtaine de jours pour trouver les ressources nécessaires pour nous relancer éventuellement. Sinon, on va devoir baisser le rideau.
Alors, vous faites écho à un communiqué que vous avez diffusé sur votre site et sur les réseaux sociaux cette semaine et qui revient finalement sur le modèle que vous aviez adopté au départ pour développer le desk.ma. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le pari qui était le vôtre, à la fois en termes d'offres journalistiques et puis de modèle économique, Ali Amar ?
Pour expliquer les choses tout à fait simplement, c'est qu'on a voulu rééditer un peu l'expérience de Mediapart dans un environnement qui est évidemment plus difficile et plus restreint, mais on pensait que les conditions étaient réunies pour au moins tester et même jouer le rôle de cobaye par rapport à ça, c'est-à-dire un modèle totalement payant au début, qui comptait sur ses lecteurs par abonnement. Pourquoi nous pensions que c'était possible ? Tout simplement parce qu'il y a une conjonction de faits positifs. C'est que il y a un lectorat qualifié au Maroc, comme on dit dans le jargon, un intérêt pour une presse de qualité, une technologie qui accompagne cette possibilité, qui la rend possible, c'est-à-dire un système bancaire évolué et évidemment une profondeur d'accès à Internet de haut débit au Maroc. Donc la conjonction de ces trois phénomènes nous a poussé à tenter l'expérience. À côté de ça, nous sommes toujours, malgré nos difficultés actuelles, persuadés que c'est dans l'offre éditoriale que se joue la réussite d'un média, quel que soit son environnement. La concurrence, elle est très diversifiée, mais elle est surtout constituée d'agrégateurs, je parle évidemment de la presse numérique, qui est une presse généralement non professionnelle, qui ne recoupe pas ses informations, qui ne travaille pas comme nous on a pu travailler pendant toute cette année sur des enquêtes, des reportages de fond, en apportant une innovation inédite, c'est-à-dire une interface graphique, une technologie de pointe qui a fait notre succès jusqu'ici. Donc il y a un vrai succès d'estime, il y a un vrai succès de lectorat, mais il y a un souci évidemment, on s'y attendait un peu par rapport à la validation du modèle économique.
Oui, parce que je crois savoir que l'objectif que vous vous étiez fixé pour réussir à conquérir cette indépendance, c'était 10 000 abonnés pour pouvoir réussir à faire tourner la rédaction, et on est plutôt du côté de 1 000 abonnés à l'heure actuelle.
Voilà, on est à 10% de l'objectif annuel, qui n'est pas extraordinaire en soi, puisque la presse francophone, elle dispose de ce bassin. Évidemment, il n'y a aucune comparaison à faire avec les capacités d'un média arabophone. On est quand même dans un pays qui est de moins en moins francophone, il faut le savoir. Mais cette catégorie de lecteurs, on a fait nos études, nous savons que le bassin est au moins 4 fois plus élevé que l'objectif de rentabilité, que le fameux break-even, comme on dit en business, en termes de business.
En tout cas, vous n'avez pas trouvé suffisamment d'abonnés pour réussir à défendre ce modèle, et je crois savoir aussi que c'est pour cette raison que vous avez testé une sorte de modèle mixte, c'est-à-dire associant de la publicité aux abonnements. Et vous, là, je crois que vous parlez de boycott politique qui aurait déréglé le marché des annonceurs et qui donc aurait contribué, on va dire, à complexifier la situation du desk.ma, Ali Amar.
Tout à fait. Nous avions un plan B, évidemment, dans nos cartons. C'est-à-dire que si cette première formule en paywall ne fonctionnait pas, nous avions préparé ce qu'on appelle le modèle freemium, c'est-à-dire un modèle hybride qui maintient une édition abonnée qui est le socle de l'offre éditoriale et un pourcentage assez conséquent d'articles, l'accès gratuit et évidemment ouvert sur la publicité. Mais, et c'est pour ça que nous parlons de boycott à caractère politique, il faut savoir que depuis des années, l'octroi de la publicité est conditionné évidemment par un asservissement de la ligne éditoriale, pour faire simple. En plus de ça, évidemment, la distribution de cette manne-là se fait dans des conditions totalement opaques.
Autre élément de contexte, il n'existe pas vraiment de mécanisme de soutien à la presse au Maroc, mais surtout, il n'est pas possible non plus de faire appel à des capitaux étrangers. Est-ce que vous avez la possibilité ou peut-être en tête une sorte de plan B, surtout qu'on sait que dans le contexte actuel, passé les élections législatives, il est plus nécessaire que jamais de continuer à défendre le pluralisme de la presse au Maroc. Quelle est la perspective au-delà du mois d'octobre, Ali Amar ?
Bien écoutez, il faut impérativement qu'on trouve de l'argent frais et donc soit un chevalier blanc ou un investisseur, un business angel, comme on dit, soit très sincèrement, les charges qui ne sont pas énormes par rapport à la concurrence ne pourront pas être prises en charge s'il n'y a pas un plan de sauvetage de l'entreprise.
Ali Amar, je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur du desk.ma. Bon courage à toute l'équipe dans cette épreuve et merci d'avoir répondu à notre appel.
Merci Julien. Au revoir.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias ? Vous connaissez peut-être l'adage « Don't feed the troll ». Alors « Don't feed the troll » en français, c'est « Ne nourrissez pas le troll » ou pour le dire en français facile, « Ne tentez pas de dialoguer avec des individus foncièrement malveillants, c'est une cause perdue ». La blogueuse et youtubeuse Claire fait grrr, @Claire avec un K sur Twitter, a su transformer un raz-de-marée de commentaires haineux et anti-avortement en don pour le planning familial. Voilà l'histoire. Face aux menaces répétées en 2015 de la part du Front National de couper des subventions au planning familial, Claire a décidé de réagir en publiant une vidéo dénonçant les incohérences du discours des élus frontistes. Aussitôt publiée, la vidéo suscite l'ire des frontistes, mais aussi le déchaînement des trolls de tous bords qui viennent littéralement inonder les commentaires de leurs injures et de leurs propos haineux. Et là, Claire décide tranquillement de contre-attaquer. La voici qui collecte méticuleusement les dites injures, en fabrique un recueil de 30 pages appelé « Dans ton com », puis elle publie le fruit de ce travail avec le soutien d'une petite maison d'édition. Le livret est vendu 4 € pièce et là, surprise, ça marche très bien. Elle collecte alors plus de 14 000 euros qu'elle reverse aussitôt au planning familial. Troller les trolls, il fallait y penser, mais Claire l'a fait.
On est tous là à critiquer les dirigeants français, les politiciens, mais nous on fait quoi ? On est tous là à critiquer, on est que bons dans les réseaux sociaux. Sinon, sur le terrain, qui bouge sur le terrain ? Personne bouge sur le terrain.
On peut se lancer des défis sur Facebook sans forcément céder à la mode des challenges grossiers, voire carrément dangereux. Et c'est à Sarcelles, une commune du Val-d'Oise située au nord de Paris, que s'invente une forme de bienveillance que l'on peut partager sur les réseaux sociaux. Il y a 15 jours environ, Malik Diallo, un habitant du quartier populaire des Sablons, organise une distribution de plats auprès des migrants vivant du côté de Stalingrad, à Paris. Malik et ses comparses ne se sont pas contentés de filmer chaque étape de cet acte de générosité pour le publier ensuite sur leur compte Facebook. Ils en ont fait un défi.
Maintenant, on nomme les Sablons et le vieux Solo comme poti.
Monsieur Eshbon, et on voulait dire un truc encore, c'est que on est tous des enfants de réfugiés. C'est pour ça aujourd'hui quand on voit les gens comme ça, qu'ils ont rien, c'est pour ça qu'on leur tend nos mains.
La vidéo initiale de Malek s'est à présent plus de 120 000 vues et d'autres quartiers de la couronne parisienne semblent vouloir lui emboîter le pas. Bravo Malek.
C'est les trucs comme ça qui montrent c'est qui était bien élevé, c'est qui les vrais bonhommes.
Aux États-Unis, Facebook milite à sa manière pour que les Américains aillent voter à la présidentielle. Du 23 au 26 septembre 2016, Facebook a affiché sur les fils d'actualité des internautes américains un message appelant ces derniers à s'inscrire sur les listes électorales. Et là, contre toute attente, selon des données d'un centre de recherche américain, il existe une très forte corrélation entre cette campagne d'incitation lancée sur Facebook et le pic des inscriptions repéré dans 9 États en particulier. Ce n'est pas la première fois que Facebook incite ses utilisateurs à se mobiliser puisque pour le vote des Britanniques sur le Brexit, les analystes avaient déjà repéré le même phénomène de pic d'inscription de jeunes électeurs. Cela dit, l'influence de ces incitations sur le cours du scrutin lui-même reste très difficile à mesurer, comme l'a remarqué Numérama. D'ailleurs, ce pic des inscriptions en masse de moins de 35 ans ne s'est pas pour autant transformé en ruée vers les urnes pour les jeunes électeurs. S'inscrire en deux clics, pourquoi pas, aller voter, c'est une autre histoire. Je vous rappelle qu'à l'atelier, on tweet presque tout ce qu'on raconte au micro, donc tous les liens, toutes les références de nos brèves sont à retrouver sur le compte Twitter de l'atelier, @atelier_media. Comment donner en une journée un tour d'horizon des outils numériques et des bonnes pratiques susceptibles de chambouler une rédaction ? C'est là l'enjeu du Speed Training, un événement créé à Nantes par l'association West Media Lab pour ses adhérents. Manon Mella est allée voir de plus près et a rencontré Philippe Roux, cofondateur de l'association West Media Lab, avec une question que l'on se pose tous, le Speed Training, qu'est-ce que c'est ?
Le Speed Training, c'est évidemment un clin d'œil au Speed Dating. Et on a imaginé cet événement, ce dispositif, il y a 3 ans, en discutant avec nos adhérents journalistes, les adhérents de l'association, qui nous disaient qu'ils avaient peu de temps pris par le flux de l'actualité. Ils avaient peu de temps pour sortir des rédacs et pour découvrir des nouveaux outils. Donc en gros, ils butaient quand même devant cette difficulté qui consiste à pouvoir sortir de son travail quotidien, s'ouvrir, découvrir, être rassuré également sur ou conseiller sur ce qui marche, ce qui marche pas, etc., etc. Et donc on s'est dit, ben voilà, pourquoi on n'organiserait pas une journée concentrée où des pros parlent aux pros, où le journaliste qui sait bien se servir de Twitter pour lui, pour son travail, il montre à d'autres journalistes comment il fait, etc. Et donc on s'est dit, allez, on se lance pour organiser 30 tutos de 30 minutes. Il y a une dizaine de tutos par journée. Très concret, les gens, c'est du retour d'expérience. C'est vraiment du tuto en live qui ensuite est mis en ligne parce que tout est filmé. Et donc chaque année, eh bien, ce sont, là cette année, c'est 320, 300 et quelques personnes. En gros, c'est entre 300 et 400 personnes qui payent un peu, 30 euros en moyenne, pour venir participer à cette journée et pouvoir suivre, découvrir les outils qu'ils veulent.
Je vais vous parler de Facebook et comment optimiser l'animation de Facebook. Donc, mon point à moi, ça sera pas du tout technique, c'est vraiment... l'éditorial pur jus. Donc, pour moi, le cœur du métier de l'animation sur Facebook, c'est la production de contenu. Comment est-ce qu'on produit des contenus et comment on les valorise le mieux possible. Donc, ça sera plutôt un travail éditorial. Donc, voilà. Premier changement, c'est que Facebook annonce une guerre ouverte contre les contenus pouce au clic. C'est-à-dire des titres avec des accroches qui sont survendues, des promesses qui ne sont pas tenues, des contenus qui sont pauvres ou décevants. Et pour lutter contre ces contenus décevants, Facebook va analyser la différence entre le taux de clic et le temps passé ou l'engagement qui s'est produit sur chaque contenu.
Pourquoi c'est important selon vous qu'il y ait ce genre d'événement qui existe dans l'écosystème média ?
C'est vachement compliqué pour les gens, pour les professionnels de l'info ou de la com, de sortir de leur boulot, parce que en général tout le monde est le nez dans le guidon, et puis de pouvoir découvrir, pouvoir apprendre, se former, et que ce soit fait non pas par des consultants qui ont toujours des trucs à vendre, mais que ce soit fait par des pairs, c'est-à-dire un collègue comme moi, peut-être le gars qui bosse dans le journal concurrent, mais lui au moins il sait se servir de je sais pas quoi moi de Google Analytics, par exemple, pour mesurer l'audience de ses articles, et il va partager son expérience. Et ça, c'est vachement riche, et surtout, c'est rassurant.
qui sont les personnes qui viennent assister à ces tutos, justement, à cette journée?
Essentiellement, enfin majoritairement des communicants. Près de la moitié sont des communicants. Et c'est un public auquel on ne s'attendait pas au départ. Il doit y avoir, je sais pas, une 50-60 journalistes aujourd'hui. Hein, il y en a. Mais c'est pas eux qui sont majoritaires. Au départ, la journée était faite pour eux. Et puis, d'ailleurs, on avait réservé des petites salles à la Cité des Congrès à Nantes pour une centaine de personnes au total. Nos adhérents, quoi, hein, qu'on imaginait disponibles ce jour-là. Et puis, en fait, d'un seul coup, il y a 350 personnes qui sont inscrites. Et donc, effectivement, c'est plus de la moitié de communicants, parce que finalement, les besoins sont un peu les mêmes. C'est-à-dire, comment puis-je produire, créer du contenu intelligent, intéressant, etc., avec les nouveaux outils? Comment puis-je les diffuser? Comment puis-je mesurer mon audience? Comment puis-je interagir avec l'audience, etc.? Donc, les problématiques sont presque les mêmes. Et donc, on a des gens des collectivités, des gens des associations, des gens des grandes entreprises. Donc ici, il y a la direction de com' aujourd'hui, des directions de com' de la Caisse d'Épargne, direction de com' du Crédit Agricole, direction de com' de, je sais pas, de Rennes Métropole, de Nantes Métropole, du Conseil Général, du Conseil Régional. Donc ces grandes institutions qui ont des petits médias, en fait. On a petits ou grands médias, hein. Nantes Métropole, je sais pas combien ils sont, au service com', à l'éditorial, mais il y a des magazines, nationaux qui ont peut-être moins de journalistes. Hein. Donc il y a du monde là, y compris presque des cartes de presse, quoi. Il y a des journalistes professionnels dans ces équipes-là qui viennent aujourd'hui découvrir et se former. Et puis après, il y a des enseignants. Alors, il y a donc les journalistes, évidemment. Puis des enseignants, des organisateurs d'événements. Voilà, c'est divers après. Ensuite.
Bien, bonjour à tous. Je suis Claude Bouchet, je suis éditeur web à France 3 Pays de la Loire, et je vous propose un retour d'expérience sur notre manière à nous d'utiliser Facebook Live. Alors avant tout, je voulais vous préciser que dans nos antennes régionales, Facebook Live s'inscrit dans une démarche de ce qu'on appelle de digital first. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, finalement, on était dans notre ADN, à nous, c'était de faire de la vidéo pour la télé, pour les sujets d'actu, que ce soit nos rendez-vous quotidiens à 12h, à 19h. Et l'idée aujourd'hui, eh ben, c'est de finalement faire de produire de l'info en continu. Et il faut embarquer le nombre de journalistes le plus important dans cette histoire pour qu'ils acceptent de produire du contenu pour le numérique.
Je m'appelle Mélanie Chalulot, je suis community manager chez Télé Loisirs, donc pour Prisma Presse.
Et cette année, alors, qu'est-ce que vous avez appris là depuis ce matin?
Alors surtout à faire une vidéo, comment faire une vidéo qui marche en fait sur Facebook, parce que c'est très compliqué de capter l'attention des personnes en moins de 30 secondes. Et donc l'atelier de ce matin sur les vidéos virales était très intéressant.
Et là vous allez où alors?
Là je vais rester pour Google, puisqu'il va parler de Trends, c'est un outil que moi j'utilise beaucoup. Et puis après je pense que j'irai, il y a un retour d'expérience de France TV sur Snapchat, donc je suis fan de Snapchat, donc je vais aller voir ce qu'ils ont fait.
Oui bonjour, je suis Laurent Calixte, je suis journaliste.
Qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui au Media Lab Speed Training ?
Plein d'idées et d'outils pour mieux faire mon métier, notre métier de journaliste sur le web et sur les outils numériques.
Vous avez appris quoi alors ?
Énormément de choses. J'ai appris comment on pouvait utiliser Snapchat pour raconter des histoires, comment utiliser les statistiques, comment grâce à Google on peut effectivement trouver des informations ou montrer des informations avec Google Maps par exemple et Google Earth Pro qui est très 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 puissant. Ici j'ai appris à l'atelier qui vient de se terminer comment on peut utiliser les jeux, la gamification pour expliquer aux lecteurs des phénomènes complexes. J'ai appris plein de choses. J'ai pris plein de notes. Je vais avoir besoin de une ou deux heures pour tout synthétiser, tellement ça a été riche, c'était vraiment excellent.
Le Media Lab Speed Training, un reportage de Manon Mella et une initiative de l'association West Media Lab. Julien Costrège, cofondateur de cette association, nous parlera dans 3 minutes de l'évolution de l'enseignement du journalisme aujourd'hui et de la pédagogie adaptée pour celles et ceux qui nous informeront demain. Il sera aux côtés de Julie Joly à 2 jours de l'ouverture à Paris de l'école W. À tout de suite après le flash. Atelier des médias, deuxième partie. Ce qu'il y a de réjouissant dans tout ce que le numérique nous demande de faire, c'est qu'il y a de la place pour réinventer des métiers, des trajectoires, voire même, allez, je vais dire un gros mot, pour réinventer nos existences. Je passe bien entendu sous silence tous les non-dits, les impensés et les menaces que fait peser sur nos libertés l'hydre numérique. Oui, mais voilà, s'il y a un chemin auquel je crois et s'il y a un sujet sur lequel on a bien envie d'avancer à l'atelier des médias, c'est bien celui de l'éducation, de la formation et de la transformation. Je me souviens d'ailleurs d'une heureuse façon de résumer les enjeux, et c'était là le mantra de la Fondation Internet Nouvelle Génération, toujours très engagée dans les questions d'appropriation démocratique de l'innovation. C'est en marchant qu'on avance. Oui, apprendre, comprendre, coder et décoder pour finir par réinventer, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça a de l'allure. Aussi, je vous propose d'échanger sans plus tarder avec deux personnes qui se sont pleinement emparées de ces enjeux en attaquant de front deux problèmes. Premièrement, comment localement à Paris, à Tunis, à Abidjan ou à Ouagadougou peut-on encourager les acteurs de l'information à travailler ensemble? Et petit 2, pour le dire scolairement, comment repenser la formation de celles et ceux qui fabriqueront les sons, les images, les vidéos et les données qui nous informeront demain? Allez, assez parlé, inventons ici et maintenant, c'est lendemain qui chante.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Bonjour Julien Kostrech.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans un certain nombre de rédactions et vous avez même connu de très près, j'ai envie de dire, les problèmes de transformation de la presse papier. Et puis, un beau jour, vous avez décidé de cofonder une sorte d'ovni super malin à Nantes qu'on appelle West Media Lab. Alors, est-ce que vous pouvez tout simplement raconter aux auditeurs West Media Lab, qu'est-ce que c'est ?
Bah, c'est vrai déjà que l'idée est venue après avoir passé du temps dans pas mal de rédactions, le nez dans le guidon, où les idées pour innover, pour créer de nouveaux contenus ne manquent pas, mais le temps et les moyens de le faire, en revanche, manquent toujours. Et donc l'idée est venue de se dire, et si on montait un labo, un Media Lab, donc ouvert, qui permettrait aux médias de s'associer, de travailler ensemble, et surtout aussi de s'ouvrir vers d'autres acteurs.
Alors justement, si on essaie de localiser et de voir comment vous travaillez, West Media Lab, c'est donc basé à Nantes. Et West Media Lab, c'est un cluster. Qu'est-ce que c'est qu'un cluster ?
Alors en français, un cluster, c'est une grappe. Donc c'est ça. On est dans le vignoble aussi, hein, mais plus sérieusement, c'est parce que ça regroupe les acteurs d'une filière. En l'occurrence, la filière des médias, et je dirais plus largement les acteurs de l'information et de la communication. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a tous les médias dans l'Ouest, sur les régions Bretagne et Pays de la Loire, qui quasiment tous, hein, qui adhèrent, que ce soit des radios, des télés, des groupes de presse, des agences, des pure players, tous les supports, toutes les tailles aussi. Hein, ça va du grand groupe Ouest France à des médias associatifs comme Radio Sun par exemple à Nantes. Et autour, on va retrouver des agences de communication, des gens qui font du documentaire et qui aujourd'hui réfléchissent plutôt en termes de web documentaire ou de narration interactive. Les écoles, qui sont un acteur aussi important, parce qu'on fait pas mal d'ateliers avec les écoles. Pas que les écoles de médias et de communication, également les écoles d'informatique, les écoles de graphisme, de design. Puisque la grande idée derrière ça, c'est quand même d'agiter les ingrédients médias, informatique, design, et d'expérimenter de nouvelles façons de fabriquer l'info avec ces métiers.
Oui, parce que West Media Lab, c'est une association, donc c'est pas une agence. Et l'enjeu de cette association, on est bien d'accord, c'est de structurer localement ce qu'on pourrait appeler une sorte d'écosystème de l'innovation média. Et on l'entend, vous parlez en fait finalement de l'ensemble des acteurs. Est-ce que ça veut dire qu'avant l'existence de West Media Lab, ces gens avaient du mal à travailler ensemble pour réinventer leur métier ? Julien Kostrech.
Il y avait déjà évidemment des partenariats, des collaborations, mais je me souviens moi de cette première réunion à Nantes, on avait regroupé 25 médias de l'Ouest, et c'était la première fois qu'ils se retrouvaient ensemble autour d'une table. Il y avait déjà des regroupements par support, les radios entre elles, les journaux ont leur syndicat professionnel, mais là l'idée c'était pas de monter un syndicat professionnel des médias de l'Ouest, c'était vraiment cette ouverture vers d'autres acteurs. Aujourd'hui il y a une centaine de structures dans West Media Lab, sur parmi lesquels une vingtaine de médias. Donc je vous citais les écoles, mais il y a également des startups. Voilà, l'idée étant vraiment de créer un maximum de connexions et d'offrir des terrains de jeu pour ces acteurs où ils puissent essayer des choses ensemble. C'est pas non plus un bac à sable où on va tout partager, parce qu'il y a des gens qui sont concurrents aussi à l'intérieur du cluster. Donc c'est plus un Rubik's Cube à géométrie variable. Il faut trouver les bonnes alliances entre startups, médias, écoles, et c'est ce qu'on essaye de faire. faire au quotidien depuis 4 ans maintenant.
Alors là, on a la mission générale. Si on décline en type de choses et d'actions que vous proposez à West Media Lab, j'ai l'impression que la première des missions, c'est d'accompagner en ayant une sorte de veille, c'est ça ?
Nous, nos adhérents nous demandent, ben voilà, dans le flot d'innovation, dites-nous ce qui peut être utile pour nous. Évidemment, ce qui se passe au New York Times, ça peut être inspirant. Mais on essaye aussi de trouver des exemples dans des médias locaux, que ce soit des radios, des télés ou des journaux. Voilà, à des échelles qui vont parler, en fait.
Qui ont du sens.
Qui ont du sens.
Pour des médias qui n'ont pas les mêmes moyens, encore une fois, que le New York Times ou d'autres médias très, très importants. Ensuite, si on développe un petit peu, quand on est un acteur qui accompagne ces phénomènes d'innovation, qu'est-ce que vous organisez ? Je crois qu'il est possible de travailler avec vous, vous organisez des séminaires de formation. Comment West Media Lab fait en sorte d'être précisément au service de ces acteurs de l'innovation localement ? Julien Kostrech.
Alors, on en est effectivement beaucoup sur le projet. C'est-à-dire que c'est ce que nous ont demandé les médias, c'est de pouvoir tester des choses très concrètement à 3 mois, à 6 mois. Et d'aller sur des terrains un peu nouveaux. Bah, exemple, le data journalisme. Très bon terrain de jeu au départ pour créer cette rencontre entre l'informatique, le design et le journalisme. Donc comment raconter des histoires avec des données, visualiser des données. Et la façon de le faire, on s'est inspiré en fait des hackathons, donc de ces ateliers ouverts où on va aller utiliser de la matière première pour fabriquer quelque chose. Et on a mis les écoles dans la boucle qui, elles, ont appliqué leurs étudiants sur du temps pédagogique, donc les étudiants sont encadrés, sont évalués, et ils travaillent sur des cas concrets avec un média qui vient avec un projet et qui va mouiller la chemise.
Alors là, vous êtes en train de nous parler du Iblab, c'est ça ?
Oui, parce que ces ateliers qu'on appelle Iblab, le Ib, c'est pour hybride, parce qu'on mélange justement les métiers, on est vraiment sur du transdisciplinaire. C'est aujourd'hui la moitié du temps que consacre l'équipe de West Media Lab, c'est sur l'organisation d'ateliers de ce type-là, à Nantes, à Rennes, à Angers bientôt, on en a à Saint-Brieuc avec l'UT de journalisme de Lannion à la fin du mois de novembre. Et à chaque fois, ce sont des rédactions qui viennent avec des projets. Alors, ça peut être sur le data journalisme, ça peut être sur les récits interactifs, on en a fait sur les archives aussi, comment on peut faire du neuf avec du vieux en imaginant des applications qui permettent d'explorer ou de valoriser des archives.
Et si
les sujets ne manquent pas.
Et si on parle format, justement, comment est-ce qu'on fait pour organiser ces sortes de marathons créatifs qui permettent à des rédactions un peu anciennes peut-être de mener à bien des projets avec des compétences un peu nouvelles et avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de composer ? Le Iblab, le format, c'est quoi, Julien Kostrech ?
Le format du Iblab, c'est au moins 3 jours, parce que je dirais en 2 jours, on arrive à travailler des idées et des concepts et les maqueter. Mais à partir du 3e jour, 4e jour, on commence à pouvoir produire les choses. Et si c'est des applis, bah avoir des applis qui vont être mises en ligne et testées, ou d'aller jusqu'à la diffusion des contenus. Parce que le but est vraiment de produire. Alors évidemment, il faut que les journalistes trouvent le temps de s'impliquer dans ces ateliers. Et puis, il y a du travail aussi entre chaque journée d'atelier. Les ateliers rassemblent tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que l'informaticien, le designer va s'autoriser à venir sur le terrain du journaliste et inversement. Quoi. La première journée, c'est vraiment un moment où tout le monde s'autorise à aller sur le terrain de l'autre et on essaye vraiment de faire les frictions créatives, comme on dit.
Ouais. Ouais, c'est là où on sort de la logique de silo et des services.
Exactement.
Et on essaie de dire aux gens, puisqu'on est dans un événement qui est en dehors de la sphère directement professionnelle, essayons de travailler autrement. Donc jour 1, on casse un peu les silos. Ensuite, Julien Kostrech.
Ensuite, le jour 2, on élabore un cahier des charges, mais collectivement, et on commence à voir quels vont être les rôles de chacun. Et puis, à partir du jour 3, on met en production. Et le jour 4, on teste. Il faut beaucoup de tests avec les utilisateurs, notamment, pour voir si l'application ou l'histoire qu'on raconte, si elle rencontre bien un public ou si on s'est juste fait plaisir, mais en passant à côté de la cible.
Alors, je vous propose d'écouter Estelle Prusker. C'est une vidéo que j'ai trouvée, en fait, évidemment, sur YouTube. On est en 2013. Elle est responsable de l'enseignement média d'une école nantaise, justement, qui s'appelle Sciencescom. Et elle nous parle de votre travail et du Iblab. Estelle Prusker.
On participe au Iblab déjà pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'un projet hybride et innovant comme celui qui a été développé par West Media Lab. Ça intéresse nos étudiants, ça leur permet déjà de se confronter à la vraie problématique du data journalisme, à la fois d'expérimenter ces nouvelles pratiques, de rencontrer des designers et des développeurs, et aussi des médias locaux qui viennent proposer des sujets et accompagner les étudiants tout au long de l'expérimentation.
Pour les étudiants, ça change quoi concrètement, Julien Kostrech?
Pour les étudiants, déjà, ils sont sur un vrai projet d'une rédac, un projet éditorial, une histoire qui va être mise en ligne. Ça, c'est déjà motivant. Et moi, chaque année, je suis amusé de voir aussi les étudiants en informatique, parce que pour eux, d'un seul coup, ils se retrouvent à travailler sur un projet qui est visible, qu'ils peuvent partager, qu'ils peuvent montrer à leurs amis, à leur famille, là où parfois ils sont sur des sujets un peu plus ardus, sous le capot. Là, ils sont au service d'une histoire qui va être racontée et ils prennent beaucoup de plaisir. Et l'enjeu aussi à travers le HibLab, c'est que ces informaticiens-là, qui pour certains n'auraient jamais imaginé travailler dans les médias demain, puis ils ont des offres aujourd'hui, ils sont demandés, donc ils sont très sollicités, bah certains on les voit continuer dans cette direction-là parce qu'ils y ont pris goût sur le HibLab. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important dans la transformation qu'on essaye de mener avec les médias sur le numérique.
Si on prend un peu de recul justement sur le travail que vous avez commencé à mettre en place justement à Nantes, est-ce que vous avez la sensation que de nouveaux métiers émergent, que de nouveaux projets vraiment sont en train d'être littéralement transformés? Et comment vous faites d'ailleurs pour apprécier la qualité de ces retours d'expérience et pour continuer de travailler en tant qu'agitateur du numérique localement, Julien Kostrech?
Bah déjà, on fait évaluer tout ce que l'on fait par les participants, par les étudiants, par le public aussi, en regardant voilà combien de temps les gens ont passé sur les contenus qui ont été créés, où est-ce qu'ils ont cliqué, quel intérêt, quelle interaction ils ont amené. Et puis sur l'évolution, bah je dirais que là on était parti beaucoup sur des histoires. Bon, par exemple, Presse Océan vient avec un sujet en se disant moi j'ai envie de regarder, c'est le journal local à Nantes. Et j'ai envie de regarder la saison du FC Nantes club de foot à la loupe. Et donc ils ont pris toutes les données disponibles sur les joueurs et ils ont créé un petit tableau de bord interactif où en fait l'internaute pouvait voir quel était le meilleur défenseur, le meilleur attaquant et les performances des joueurs au fil de la saison. Donc on était beaucoup sur des projets de ce type-là, vraiment du one shot, hein, c'était une histoire. Et en fait aujourd'hui on voit bien derrière le potentiel qu'il y a en termes d'outils. Parce que là, dans cet exemple-là, je pense que l'étape d'après pour le HibLab, c'est de développer l'outil qui va équiper la rédaction, qui permettra d'aller rentrer les données sur un club de sport et d'avoir le tableau de bord interactif, quelle que soit l'équipe, la ville. Donc on va aller de plus en plus vers de l'outil pour les rédacs.
Alors j'ai envie que vous nous parliez d'autre chose et ça va nous rapprocher de notre deuxième invité. En 2015, vous avez signé avec l'Université de Nantes et le CFI, donc l'une des écoles de journalisme parisienne, un partenariat, alors je cite, un partenariat afin de lancer ensemble le premier diplôme transdisciplinaire appliqué au service et à l'éditorialisation des données. Ça s'appelle Data Media et je ne comprends toujours pas ce que c'est, Julien Kostrech.
Ben, c'est une formation au data journalisme, mais pas que. Il y a aussi l'idée de data service, parce que raconter des histoires avec des données, c'est clairement quelque chose qu'on va apprendre au cours de cette formation. Mais aussi développer des services pour les médias à partir des données, notamment dans l'infoservice. Il y a pas mal de choses à faire, que ce soit avec les données de déplacement, même la météo. Voilà, il y a beaucoup de choses à imaginer. Et c'est vrai que nous, on avait le format HibLab qui fonctionnait bien sur 3-4 jours. On se disait, si on pouvait faire quelque chose sur 3-4 mois, ce serait formidable. Et il y avait déjà des discussions qui avaient été entamées entre l'Université de Nantes et le CFJ. Et voilà, la rencontre a eu lieu à ce moment-là. On s'est dit, OK, montons ça ensemble et ça ouvre au mois de janvier.
Et alors justement, Julie Joly est avec nous en studio. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors, c'est quoi l'enjeu quand on est directrice du CFJ, donc une des écoles parisiennes de journalisme? C'est quoi l'enjeu de s'associer à ce genre de formation, Julie Joly?
C'est exactement ce que décrit Julien, c'est-à-dire que les médias évoluent tellement vite, les métiers évoluent tellement vite qu'on peut pas simplement continuer à faire d'une école de journalisme ce qu'elle était il y a 20 ans. Donc l'enjeu, c'est de répondre aux attentes des étudiants, d'abord, celle de se former au plus près de ce qui les attend à la sortie, mais aussi de participer à une révolution en amont. Nous, l'ambition qu'on a, c'est effectivement de préparer des jeunes à transformer les médias de l'intérieur une fois qu'ils seront sortis. Donc les data en font partie. et plein d'autres formats aussi qui arrivent, y compris parfois des formats pas numériques du tout. Hein. Je pense au Live Magazine, qui est un nouveau format de récit sur scène. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'assister à toutes ces innovations et de préparer les étudiants à apporter des idées dans ce schéma-là.
Alors, quand on est justement directrice d'une école de journalisme et qu'on avait pignon sur rue, rue du Louvre, en plein centre de Paris, pourquoi est-ce qu'on se sent obligé, comme ça, d'investir un nouvel immeuble et de transformer l'espace pour essayer de repenser le projet ? C'est quoi l'enjeu, Julie Joly ?
L'enjeu, c'est de pas se laisser enfermer dans des symboles. Je pense que, un peu comme les nouveaux médias aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut pas faire du neuf dans du vieux. Moi, j'ai du mal à y croire. Donc, effectivement, il fallait, pour laisser les étudiants du CFJ travailler en mode projet, et parce qu'on a créé aussi autour du CFJ un écosystème avec beaucoup d'autres écoles, les Gobelins 42, l'école de design de Nantes, d'ailleurs, avec lesquelles on travaille, il fallait créer des espaces de travail en collaboration, et on a créé une nouvelle école post-bac qu'il fallait aussi pouvoir accueillir et les faire travailler ensemble.
Oui, alors vous parlez de l'école W. D'ailleurs, question toute bête pour nos auditeurs, école W, pourquoi W ?
Alors, l'école W, c'est évidemment d'abord une référence au W, à la règle des 5 W du journalisme, les 5 questions que tout bon journaliste doit se poser quand il commence un article ou une enquête, qui, quoi, comment, où, pourquoi, en anglais. Et c'est aussi, en fait, on s'en est rendu compte, les 5 W, la règle de créativité de beaucoup d'écoles de design. Donc, comme on veut, dans cette école, effectivement, combiner, hybrider culture générale et culture digitale, c'était le principe de poser cette règle commune entre tous les étudiants.
Alors, je pense qu'il est important de bien préciser les choses. L'école W, c'est pas une nouvelle école de journalisme.
Non, pas du tout. L'école W, c'est pour moi, pour nous, l'école qui prépare à tous les métiers du contenu. Donc, y compris journalistique, s'ils veulent poursuivre dans le journalisme, et aussi dans la communication, dans le design d'information, dans la scénarisation, la fiction, y compris dans l'enseignement aussi. Il y a beaucoup d'écoles Bac plus 3, qui recherche des profils un peu nouveaux, qu'on a du mal à trouver, que moi j'ai du mal à trouver au CFJ voilà, en sortie d'université ou d'école trop professionnelle. Donc on crée cette école généraliste qui mêle effectivement culture générale, culture digitale, autour de projets extrêmement concrets, avec un écosystème aussi de start-up qui sont en résidence chez nous. Donc ce que raconte Julien, moi, me passionne, parce que c'est fait partie des projets qui nous ont inspirés, évidemment, de même que d'autres écoles à l'étranger comme Chaos Pilot ou l'école 42, ou voilà.
Alors justement, ce que j'ai retenu de cette collaboration avec Chaos Pilot, parce que c'est pas toujours évident d'expliquer simplement les choses vu que c'est très peu documenté en français, c'est l'idée de collaboration, et c'est là où ça rejoint un peu le travail de West Media Lab à Nantes. L'idée, c'est qu'il faut casser certaines mauvaises habitudes, parce qu'on a des métiers qui sont solidement ancrés sur des outils qui sont un peu anciens, alors qu'aujourd'hui, les logiques d'usage et de production d'informations sont différentes. Pourquoi Chaos Pilot précisément, Julie Joly ?
Alors, Chaos Pilot est une école danoise qui existe depuis 20 ans, qui forme les pilotes du chaos, comme le dit son nom, l'indique son nom. Au départ, ils ont formé des jeunes délinquants à retrouver du travail, avec l'idée qu'effectivement, quand on parle de collaboration, ça commence dans l'école. Comment apprendre aux étudiants à collaborer entre eux, à collaborer avec des profils de compétences extrêmement différents. Donc, Chaos Pilot, quand on les a rencontrés au départ, moi, ce qui m'a fascinée, c'était de voir des jeunes qui avaient des parcours extrêmement différents. Certains étaient d'anciens joueurs de musique dans le métro, d'autres avaient des PhD. Voilà, ils n'avaient pas été recrutés pour leur parcours scolaire avant d'entrer à l'école, mais pour leur volonté de changer les choses et de travailler à plusieurs pour créer du sens. C'est vraiment une école d'innovation sur le sens. Et ils ont développé une pédagogie qui est très proche en fait de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce que fait le Hiblab et de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec W, qui fait collaborer les étudiants entre eux, avec des entreprises à l'extérieur, avec d'autres écoles, sans notion d'élitisme. On n'est pas là pour se dire qu'on est meilleur que l'autre ou qu'on aurait peur d'être pas assez bon pour travailler avec un développeur.
Et pourtant, on rentre sur sélection dans cette école W.
La sélection, encore une fois, elle est sur l'envie, sur le projet. Elle n'est pas sur les résultats scolaires.
Est-ce que ça veut dire que l'enjeu, c'est pas de former académiquement, mais de former des personnes qui ont une idée ou un projet à défendre, Julie?
Oui, c'est exactement ça. Alors, sachant que pour défendre bien un projet, il faut aussi des bases académiques. Donc, c'est aussi pour ça qu'on renonce pas, au contraire, à la culture générale. Mais on l'apprend pas de manière descendante, en se disant qu'on n'est pas bon en histoire parce qu'on n'a pas été aussi bon que son professeur ou qu'on a raté une interrogation. On devient bon en histoire quand on est fasciné, curieux par ces sujets-là. Donc, ce qu'on veut créer, c'est la culture générale de la curiosité, de l'envie. Et ce ne sera pas sanctionné, encore une fois, par des contrôles continus. C'est vraiment, est-ce qu'on peut produire sur un sujet complexe un article, une vidéo, une émission qui a du sens et qui éclaire les autres?
Alors j'ai l'impression que dans cet enjeu qui est une forme de réinvention de la pédagogie, comment est-ce qu'on fait pour réussir à se fixer des bons garde-fous, pour avoir le bon dosage entre approche académique qui permet de travailler sur le fond et travail sur les outils qui permettent de travailler ensuite sur la forme, ou plutôt l'un en même temps que l'autre? Et puis deuxième question, qui n'est pas toute petite non plus, c'est de qui est-ce qu'on s'entoure pour avoir des pédagogues qui sont capables d'encadrer ce genre de nouveaux projets? Julie Joly.
En fait, les deux questions sont extrêmement liées. Pour faire la maquette pédagogique de W, on a fait venir Chaos Pilot à Paris, qui ont formé nos mentors. Donc on s'est entouré effectivement de mentors W, qui sont issus du monde du journalisme, qui sont pour nous les meilleurs intervenants chez nous, hein, d'abord au CFJ, ceux qu'on avait identifiés comme des très bons pédagogues et très innovants, mais aussi des entrepreneurs qui créent de nouvelles start-up dans la vidéo, des écoles, encore une fois, de code ou de design. On les a rassemblés et on s'est tous formés ensemble aux méthodes de Chaos Pilot. On a appris nous-mêmes à apprendre à leur manière. Et on a dessiné ensemble cette maquette pédagogique au jour le jour, heure par heure. Mais heure par heure, c'est-à-dire que, comme j'imagine, Julien, vous le faites aussi au Iblab, on sait que pour retenir l'attention d'un élève, ça commence par la façon dont on l'accueille, dont on le fait atterrir de ce qu'il a fait avant, comment on l'engage dans ce qu'il attend et comment on lui fait retenir et comprendre ce qui est important pour lui et pour le groupe.
Oui, c'est là où on voit, je crois, qu'il y a de grandes transformations à l'œuvre dans l'acquisition de ces compétences-là. Et on le voit justement dans ces marathons créatifs que sont les hackathons ou les événements comme le Iblab. Finalement, ce qu'on demande à l'étudiant, c'est tout à fait autre chose que d'ingurgiter des connaissances. Julien Kostrech.
Oui, complètement. Et ce qui est important, c'est garder une forme de tension. Il y a toujours une idée de temps limité. À l'issue de chaque journée, il y a un livrable. Donc, il faut être capable de présenter ce qui a été collectivement produit. Oui, ça, c'est un élément qui est important. Je pense aussi, là où on est complémentaires, c'est nous, on n'a pas la formation initiale. Donc, on s'adresse vraiment à des professionnels. Donc, on va aller beaucoup plus directement sur les techniques, sur les outils. Mais effectivement, là où on s'approche aussi dans la pédagogie, c'est qu'on va faire appel à d'autres professionnels. Donc on est vraiment dans de la formation de pair à pair. Et je pense que ça joue aussi, cet effet aussi miroir pour décoincer, parce qu'il y a beaucoup de peur encore, hein, de freins aussi au changement dans les rédacs. Parce que le numérique, hein, ça a amené des supports supplémentaires. Donc en plus du journal ou de la télé, il fallait s'occuper du site internet, et puis ensuite du compte Twitter, de la page Facebook. Donc tout ça, ça a été du temps de travail aussi supplémentaire à gérer dans les équipes. Donc je pense que l'important, c'est de voir que les choses sont pas forcément si compliquées, que d'autres y parviennent, de montrer ce que ça amène aussi comme intérêt dans le métier de journaliste. Et je pense que aussi l'intérêt des journalistes se trouve dans l'interaction qu'ils vont trouver avec leur public, qui est plus forte sur le numérique.
Puisqu'on parle beaucoup d'écosystème aujourd'hui, à l'école W, ou plutôt dans vos nouveaux locaux, on a donc une coexistence entre différentes générations, différents corps de métier. Est-ce que l'école W ne risque pas à terme de ringardiser la bonne vieille formation en journalisme, Julie Joly?
Ah, j'espère qu'au contraire, elle va la sauver. Honnêtement, moi, je suis assez inquiète aujourd'hui pour les écoles de journalisme. Effectivement, je pense que, encore une fois, je le redis, on peut pas continuer à former des jeunes à des métiers qui évoluent trop vite sur les mêmes critères et de la même manière qu'on le faisait avant. Donc, il fallait, c'était indispensable à mon sens, qu'on transforme à la fois en amont cette formation qui permet de recruter des jeunes au CFJ avec un autre bagage, une autre expérience, une autre ouverture sur le numérique, le digital et la culture générale au sens large, pour qu'au CFJ ensuite on puisse parler journalisme vraiment, mais d'une
sachant qu'il sera possible de passer de W à une école de journalisme.
Alors oui, ce sera possible, c'est-à-dire qu'à la fin des trois années, nous à la fin de la troisième année, ils ont le choix entre trois spécialisations, on peut le dire un peu comme ça. Soit ils ont envie de développer un des projets qu'ils auront portés pendant les deux années précédentes, parce que ils vont en faire beaucoup des projets et ils pourraient être entrepreneurs de leur projet personnel ou collectif. Soit ils s'orientent plutôt vers la communication, vers la fiction, vers des métiers qui nécessitent aussi de poursuivre des études, et ils iront dans ces écoles qui les préparent à ces professions en particulier. Soit le journalisme est leur voie de sortie et ils ont accès aux oraux du CFJ, aux oraux du concours du CFJ. Parce qu'à mon sens, effectivement, trois années W validées, ça équivaut très largement à réussir un QCM de culture générale au concours. il faut quand même réussir après les oraux.
Alors, la rentrée pour les étudiants, c'est le 17 octobre, et si je ne m'abuse, c'est donc dans 2 jours. Parlez-nous justement du profil de ce genre d'étudiants, de ces personnes qui n'attendent pas qu'on leur délivre des connaissances, mais qui viennent armés, ou en tout cas avec cette envie de porter des projets. Julie Jolie.
Je crois que les étudiants de WSAT étaient la plus belle surprise pour nous cette année. C'est-à-dire que ils sont 70 là à rentrer le 17 octobre, et les 70 sont incroyablement différents. D'abord, moi, ils m'ont rassuré sur le fait qu'en France, il y avait encore des profils comme ça, parce que je m'étais mise aussi un peu à douter.
C'est l'air un profil comment ?
Des profils de gens ultra curieux, très très motivés, absolument pas sectaires, qui ont envie de travailler, qui sont pas... On les a tellement caricaturés, ces jeunes qui sont pas scolaires. Il y a des jeunes, effectivement, qui n'ont pas envie d'être à l'université ou pas envie d'être en prépa, pas envie de réussir des concours, mais qui sont extrêmement engagés et motivés pour réussir et travailler. Et ceux-là, qui ont déjà, pour beaucoup, monté des projets, créé des sites, des blogs, l'une d'elles a appris le coréen toute seule, ils ont une créativité propre qui est très intéressante. Ils sont pour moitié garçons et filles, ce qui pour moi aussi était une bonne surprise. Ça paraît idiot, mais je pense que c'est important dans les métiers du contenu qu'on reste mélangés. On a des profils généralistes qui viennent de bac ES, d'autres qui ont fait des études de scientifiques, des graphistes. La moitié sont étudiants et en fait, au bout d'un an ou 2 ans à l'université, se reconvertissent parce qu'ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. L'autre moitié vient directement du bac avec l'idée de tout de suite se colter avec la vie réelle. Et ils ont envie aussi d'avoir 3 années pour réfléchir à leur projet.
Julie Jolie, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes donc directrice du CFJ, mais aussi de la toute nouvelle école W. Merci d'être venue.
Merci à vous.
Julien Costrèche, vous étiez là, vous, pour nous parler d'Ouest Media Lab. Bon retour à Nantes et merci d'être venu à nous jusqu'ici.
Merci.
Je rappelle que toutes les références, tous les liens, toutes les vidéos seront donc à retrouver sur atelier.rfi.fr. La semaine prochaine, nous parlerons du Mojo pour Mobile Journalist. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. L'atelier des médias, plus qu'une émission, un projet animé par Manon Mella, Marie-Stéphanie Servos, Mathias Virili, Camille Deloche, à la réalisation Simon de Creuse, au micro Julien Lebot. L'atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute. Carrefour de l'Europe.